Et oui, vous l'avez reconnu, le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andriy Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre, eh bien, c'est la rentrée pour tout le monde. Donc les théâtres n'ont pas encore ouvert leurs portes. On commence à assister à des présentations de saison. Il faut dire que c'est un petit peu l'année de tous les dangers pour les théâtres. Je suis avec Tito Livio. Bonjour Tito, l'inénarrable Tito.
Bonjour.
Et je suis avec Christopher, le fringant Christopher. Bonjour.
Bonjour.
Je disais donc une année un petit peu d'incertitude pour les théâtres montpelliérains, puisqu'il y a des changements un peu partout, il y a des incertitudes économiques. Et dans les premiers changements, il y a le théâtre des 13 vents, le centre dramatique national, puisque après des moments de doute, de procès, finalement Jean-Marie Besset n'a pas été reconduit à son poste de directeur. Nous ne savons pas à l'heure actuelle quel va être le prochain directeur. On le saura, je pense, dans le courant du mois de décembre, puisque le mandat de Jean-Marie Besset arrive à échéance le 31 décembre.
J'entends une manifestation qui crie « Nordais, Nordais, Nordais ».
C'est vrai que nous, on aurait un petit préféré dans nos rêves les plus fous, ça serait Stanislas Nordais. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats pour ce poste très envié. C'est vrai que Jean-Marie Besset, il est parti un petit peu comme il est arrivé. Il avait été nommé un peu à la hussarde et il a été révoqué un peu à la hussarde. Donc la saison de toute façon est prête. Il y a des très belles choses pour cette saison 2013-2014. Mais au niveau de la direction du théâtre, on est en pleine incertitude. Un autre théâtre où va y avoir des changements, c'est le théâtre Jean Villard. Jean Villard, le théâtre municipal de Montpellier, puisque après 20 ans de bons et loyaux services, Luc Bremer part à la retraite. Donc il a assuré la programmation de saison pour cette année et il part à la retraite au mois de février, si je ne m'abuse. Et j'ai le nom de son remplaçant, il s'agit de Monsieur Franz Delplanque, qui est quelqu'un qui appartient à la mairie. Et c'est celui qui s'occupait des attes, entre autres, des attes. Donc, je ne le connais pas encore, on va lui être présenté très prochainement. Encore des changements, puisque au domaine d'eau, Monsieur Christopher Crimes, qui était le directeur du domaine d'eau, a été remercié par le département. Et décidément, ça valse un petit peu les têtes ces temps-ci. Et j'ai le nom du directeur par intérim, il s'agit de Monsieur Marc Lugan qui va remplacer Bremer, qui va remplacer Christopher Crimes. Je ne sais pas qui c'est, on va le rencontrer encore une fois très prochainement. Je sais que c'est plutôt un politique qu'un artiste, donc à voir, à suivre. Surtout qu'il va y avoir l'inauguration du théâtre Jean-Claude Carrière, l'inauguration qui aura lieu, je regarde ma fiche, le 21 septembre, un très 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 beau théâtre, mais un très grand théâtre. Il y a plus de 600 places, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont faire. Et ce que va devenir l'ex-salle du domaine d'eau, le théâtre d'eau, qui était un beau théâtre.
Et tout neuf, en plus.
Et il y avait deux salles.
Il n'y a pas eu de présentation de saison. Encore une fois, on est dans le flou artistique. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. Même incertitude pour la vignette, puisque le directeur de la vignette s'en va. On ne sait pas qui va le remplacer. Encore une fois, une incertitude complète. Je rappelle que le théâtre de la Vignette, c'est le théâtre de l'université Paul Valéry, où il y a eu de très bonnes programmations par le passé.
Il y avait une programmation autonome.
Programmation autonome avec, j'ai oublié le nom de son directeur.
Saccard.
Voilà, Frédéric Saccard. Donc Frédéric Saccard s'en va. Donc qui va le remplacer? On ne sait rien. En fait, on fait une émission pour dire qu'on ne sait rien, mais qu'on est en pleine incertitude. On n'a pas encore le programme non plus du théâtre Pierre Tabar. La présentation de saison, ça va être le 12 septembre.
Exactement.
Avec le grand retour de Monsieur Chawat. La Vista, il va y avoir la présentation de saison le 21, je crois, le 21 septembre. Le Carré Rondelet, il va y avoir une présentation de saison, je n'ai pas encore le programme.
Non, c'est au Rondelet, ça sera le 21 septembre.
Ah, c'est le 21 septembre, donc c'est le 22, je pense, pour La Vista. Voilà. Et il y a un théâtre fantôme dont on ne sait toujours rien, qui était un très très beau théâtre, qui a fermé ses portes depuis 2 ans. Il s'agit du théâtre du Hangar. On ne sait pas ce que va devenir ce théâtre. C'est un théâtre qui dépend de l'agglomération. On avait eu des échos à un moment, comme quoi il y avait une espèce de triumvirat qui se dessinait entre Paul Valéry, entre le Conservatoire d'art dramatique et puis les Beaux-Arts. mais a priori c'est un projet qui a capoté, donc toujours cette même incertitude. Sinon, dans ce qu'on a déjà, il y a des belles choses au Théâtre Jean Villard, il y a des belles choses au Théâtre des 13 Vents. Que dire de plus, Christopher, tu as eu des échos, toi, de ton côté, sur ce qui se préparait ?
Pas particulièrement, c'est vrai. On a l'impression que c'est une année de transition, de tous les changements, et on n'est pas vraiment au courant de ce qui va se passer. On a quand même pu déjà assister à certaines présentations de saison, notamment au 13 Vents et à Jean Villard. Donc on a une idée de ce qu'on va retrouver comme pièce.
Et puis c'est vrai que 2014, c'est une année d'élection.
En plus.
Les périodes d'élection ne sont pas forcément favorables aux grands projets artistiques. Voilà, on va clore ce sujet pour l'instant. Donc on vous tient au courant. Si ce n'est que je tenais à vous informer qu'il y a une expo qui promet d'être intéressante. On va essayer de les recevoir la semaine prochaine. C'est une expo en partenariat avec le Théâtre des 13 Vents qui s'appelle « Costume de scène ». Et donc c'est en rapport avec le spectacle des 13 Vents sur Oscar Wilde. L'importance d'être sérieux, ce sont les costumes qui vont être exposés. Ça va se dérouler à la fenêtre qui est 27 rue Frédéric Pesson à Montpellier. Donc on vous en dira plus la semaine prochaine parce qu'a priori on va essayer de recevoir les commissaires d'exposition. On va maintenant on va faire une petite pause musicale, mais on va aborder le festival où on avait un envoyé spécial, Tito Livio, qui est allé à Lisbonne pour assister au festival d'Almada, mais pour rester un petit peu dans l'ambiance, puisqu'on va fêter l'année prochaine le 40e anniversaire de la Révolution des œillets. On va passer un morceau emblématique de cette Révolution des œillets, José Alfonso, Grandola Villa Morena.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti ó cidade, dentro de ti ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, Grandola Villa Morena. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola tua vontade, Grandola tua vontade, jurei ter por companheira à sombra de uma azinheira. gaidare.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9. Vendredi Théâtre, l'émission qui parle de l'actualité théâtrale sur Montpellier. Et pas que, comme on va le voir. Donc Christopher, pourquoi ce morceau de José Alfonso est un peu emblématique de la révolution des œillets ?
Oui, c'est toujours avec certaines émotions que je réécoute ce morceau. Ce morceau, écrit par José Alfonso, avait été censuré par le régime de Salazar. Et lorsque les militaires se sont mis en marche le 25 avril 1974, ils ont pris un poste de radio et ont diffusé ce morceau interdit pour signaler la bonne marche de la révolution en cours.
Voilà, c'était le symbole, c'est un peu le symbole de la révolution.
C'est un symbole et c'est important de maintenir ce symbole, surtout que des personnages importants comme José Afonso, au point de vue culturel, sombrent un peu dans l'oubli, il me semble, au Portugal.
On va rappeler que la révolution des œillets, c'était le 25 avril 1974. Donc on fêtera les 40 ans de cette révolution très très importante.
Il y aura des choses à Montpellier.
Il y aura des choses à Montpellier. Oui. Je sais qu'on prépare des petites choses. Et voilà, c'est très important parce que ça a été la première de plusieurs révolutions qui ont suivi.
Surtout que le Portugal se trouve en parenthèse démocratique. Ils ont une pause démocratique. Et c'est vraiment le moment de parler de ce que c'est que la liberté, ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement en démocratie.
On reste au Portugal puisque Tito, tu as été notre envoyé spécial, l'envoyé spécial de Divergence FM pour un festival, festival d'Almada à Lisbonne. Ce festival, c'est un gros festival de théâtre.
Oui, c'est un très grand festival de théâtre et la dimension, il a 30 ans, il fêtait ses 30 ans cette année, il a beaucoup d'ambition, c'est très convivial, c'est un vrai théâtre, un vrai festival populaire de très grande tenue, avec beaucoup d'exigences, avec ce n'est pas n'importe qui qu'on invite, il y a une logique on ne fait pas de remplissage, on présente des choses avec une cohérence. Petit à petit, il y a d'autres institutions qui sont jointes, donc c'est, disons, finalement le festival de Lisbonne, le vrai festival de Lisbonne pour l'art dramatique, même s'il y a beaucoup de festivals à Lisbonne, puisque le Théâtre National, Dona Maria Segunda, il y a deux théâtres municipaux qui participent.
Il y a plusieurs lieux.
Oui, il y a beaucoup de lieux. Il y a Cultugest, qui est le grand centre culturel de la Caisse d'Épargne, qui participe aussi, parfois le CCB. Enfin, c'est donc le grand festival de Lisbonne et c'est un festival international.
Pourquoi on l'appelait le festival d'Almada ?
Parce que ça démarrait à Almada, dans une école, puisqu'il n'y avait même pas de théâtre à Almada. Et c'était à partir d'une petite compagnie. Et ça a été M. Benite qui a créé ce festival, qui vient de nous quitter, c'est bon de le rappeler. Et donc avec l'appui de la mairie de l'époque, et comme toutes les mairies communistes, est très active au point de vue culturel, et surtout de ce qu'on appelait à l'époque la dynamisation culturelle, c'est-à-dire l'appel, l'approximation de la culture des gens du commun.
Le théâtre populaire.
Voilà, le théâtre populaire, la culture populaire. Mais quand on parle culture populaire, on a l'impression que c'est du pop. Non, c'est pas ça. C'est vraiment rendre populaire quelque chose qui jusque-là était élitiste, était quelque chose qu'on s'habillait pour aller au théâtre. Ouais.
C'était la volonté de Jean Villard aussi.
Voilà, exact. C'est tout à fait dans cette mouvance. Ce sont des personnes qui ont beaucoup de contacts, notamment avec la France, puisqu'il y avait une immigration politique qui a amené pas mal d'intellectuels portugais ici et en Angleterre pour des raisons pas du tout sympathiques, hein, politiques, mais aussi d'autres qui sont venus puisque pendant le fascisme, il faut dire que il n'y avait pas grand-chose, et quand il y avait quelque chose, on empêchait que, on faisait en sorte que ça s'arrête. Et donc, il y a des gens comme Louis Miguel Sintra, il y a Georges Severmel, dont on va parler, qui sont passés par la France, sont passés par l'Angleterre, et bien d'autres, et qui ont après dynamisé à partir de la fin, juste avant la fin de la dictature, et surtout après la fin, le théâtre Portugal, et qui ont apporté toute une modernité, et ils nous ont mis enfin le théâtre portugais au diapason de ce qui se faisait ailleurs, tout en profitant d'un passif, de quelque chose qui existait déjà, puisque le théâtre portugais est d'une très grande qualité, notamment au niveau du jeu des acteurs. Les acteurs portugais ont une formation extraordinaire, très originale, très nationale aussi. C'est pour ça que c'est intéressant aussi pour des étrangers de les écouter, puisqu'ils sont... Ils ont des techniques, ça se voit dans les films, il y a énormément de films qui sont en France et même des séries de télévision qui ont de temps en temps des acteurs portugais. Mm-hmm. Quand on voit un film de Manuel Oliveira, on entend le plus souvent, c'est dire « Ah, quels acteurs merveilleux !» Bon voilà, les acteurs portugais sont extraordinaires, il y a de très grands metteurs en scène, il y a beaucoup de techniciens. Et d'ailleurs, le cinéma ne s'imprime pas de profiter de cette manne.
C'est vrai qu'au générique des films français, il y a souvent des techniciens portugais.
Voilà.
Alors, cette 30e édition donc, de ce festival d'Almada, mais tu y étais. Hein, je crois que tu as presque tout vu du festival. Tu as vu je ne sais pas combien de pièces.
J'ai pratiquement vu 2/3 des pièces. Et malheureusement, je n'ai pas pu arriver au premier jour puisqu'il y avait Emmanuel Marcimota, qui est le portugais, le franco-portugais qui dirige le théâtre de la ville, qui était là avec la... Avec une pièce, excusez-moi, là, j'ai un trou, vous le dirai tout à l'heure.
Ça va revenir.
C'est très bête, au moment où je devrais le dire. Mais, et malheureusement, je n'ai pas pu le voir. Et comme on est à Montpellier, c'est aussi loin d'aller à Paris que d'aller à Lisbonne, autant le voir là-bas. Mais disons que j'ai vu ce que je voulais voir. Et ça, voilà, je n'ai pas raté beaucoup de choses que je voulais absolument voir. J'ai vu quand même les choses que je voulais absolument voir et je vais vous en parler. Commençons peut-être à tout seigneur tout honneur hein, par le français de service, le plus important, qui était là. Donc, après notre cher Emmanuel Marcimota, sa maman est très copine avec nous. Hein, c'est une grande amie de Vendredi Théâtre et de Casamadis.
Teresa Mota.
Mais bon, voilà, ça n'a pas grand rapport avec son fils, qui, lui, je ne le connais pas, nous ne le connaissons pas personnellement, mais pas plus que Peter Stein. Voilà, notre importance n'arrive pas jusqu'à Peter Stein, même pas ses chevilles. Mais,
ça viendra.
Voilà, espérons-le. Peter Stein donc était présent avec deux pièces. Alors, une est complètement différente, dans des registres complètement opposés. Le dernier enregistrement de Crap, qui est une pièce de 58, qu'il a fait en Angleterre, spécialement pour un acteur qui avait une voix spéciale. Et là, c'est joué par Samuel Beckett. Samuel Beckett, pardon, par... voilà, j'ai sauté une ligne. Par Klaus Maria Brandauer. Je serais allé à pied à Lisbonne pour le voir. C'est Mephisto, l'éternel Mephisto. C'est le grand monsieur du théâtre autrichien, qui est un très grand théâtre.
Il a même fait un James Bond, d'ailleurs, si je ne me trompe pas.
Oui. Et puis, j'en ai pris plein la gueule. Là, parce que là, le voir sur scène, c'est quelque chose.
Là, un énorme comédien.
C'est rare. Hein. Au bout d'un moment, on devient blasé à force de voir des pièces. Et là... Oh, mon Dieu, c'est vraiment incroyable. Comme chacun sait, Beckett a tellement voulu que les choses soient faites selon ses volontés qu'il a... les gens se plaignent qu'ils ne peuvent rien faire avec. D'autres, et on l'a vu cette année ici à Montpellier, font ça, jouent ça chiant. Hein, ce qui fait que ça, il y a une espèce de, quand on va voir du Beckett, en général, on va à reculons en disant, mon Dieu, qu'est-ce qu'on va encore nous servir? Et là,
c'est vrai, voilà, qu'on a eu une très mauvaise expérience cette année avec le, en attendant Godot, qui était au 13 vents,
qui était assez pénible. Et les beaux jours, il y a quelques années aussi, c'était épouvantable.
C'était assez catastrophique, oui.
Voilà. Et là, pas du tout. Déjà, c'était jouissif. Et comme quoi, on peut prendre Beckett et on peut faire quelque chose qui soit vraiment appellatif, qui soit intéressant, qui soit marrant. Parce que c'est bien, c'est pourquoi pas, ce serait pas marrant, pourquoi ça doit être sinistre, c'était vraiment, et puis un équilibre entre le dramatique et le comique, vraiment, et la farce, quelque chose de vraiment d'une subtilité extraordinaire. Donc ça pour Beckett. Après, une autre mise en scène de Peter Stein qui était présentée, elle, ça c'était Almada, l'autre au Théâtre National à Lisbonne, qui était une pièce de la biche.
Tiens.
Avec Weber et des grands noms du théâtre français, on se croirait à la Comédie Française. Pour un peu, on serait mis en smoking pour aller assister.
C'était quelle la biche?
C'était le Prix Martin.
Que je ne connais pas.
Bon. Alors, moi, autant j'ai adoré le dernier enregistrement de Crap, autant là, j'étais un petit peu plus partagé sur le Prix Martin dans la première partie. Alors, bon, Weber, Francis Weber cabotine merveilleusement. Il faut le faire, de toute façon, dans une pièce de la vie, si on cabotine pas, je veux pas.
C'est vraiment comme Fedot, il faut un petit peu cabotiner.
Bah oui, il le fait très bien. Il le fait très bien. Il y a tout un tas d'autres gens qui font pareil et qui le font très bien. Sauf que je crois que le jour où je suis allé, la première partie, ils étaient un peu cotonneux. Ils n'étaient pas en forme. Et du coup, je me disais, oh, qu'est-ce que c'est. J'étais un peu déçu. Je me disais, il y a quand même un côté théâtre bourgeois dans cette affaire qui, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Mais en deuxième partie, ça s'est amélioré. Ils sont entrés dans le rythme. Parce que c'est peut-être moi, il y a peut-être d'autres façons de faire. Et ce n'est pas moi qui dirais à Peter Stein que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais je pense que dans le vaudeville, et c'en est un, il faut qu'il y ait un rythme presque musical. Tac, 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 porte claque, entre, sorte, bonjour, bonsoir, etc. Il faut que les choses soient tac, tac, tac. Et je ne l'ai trouvé que dans la deuxième partie.
Mais cette notion de rythme, on en avait justement parlé avec Jean-Claude Fall, oui, quand on l'avait reçu pour le fil à la patte. Et il disait justement de la musicalité et le rythme,
voilà,
sont primordiaux.
Mais peut-être que j'ai tort et que Peterson me dit, mais qu'est-ce qu'il a, hein, c'est ignorant. Bon, pourquoi pas. Hein, mais j'ai eu cette... Donc la première partie, j'étais un peu sur ma faim. Et après, la deuxième partie, j'ai trouvé ça très très bon. Mais quand même, la biche, c'est la biche. Et c'est là qu'on voit que Beckett, c'est quand même mieux. C'est quand même autre chose.
C'est deux époques différentes de conception,
oui,
du théâtre différent.
Côte à côte, ça tient pas la route.
Si tu veux bien, on va faire une petite, oui, pause musicale, histoire que tu reprennes ton souffle. Et en pause musicale, j'ai choisi Maria Teresa, qui va nous interpréter Fado Tropical. Et c'est avec des paroles de Georges Moustaki, parce que Georges Moustaki avait été au Portugal en 1974.
Oui, oui.
Et il a ramené cette chanson qu'il a écrite.
J'ai dit Francis. Pour ceux qui t'ont déçu,
de n'avoir rien pu faire, de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal pour tous les camarades, pour chasser dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, ma compagne, ne vois-tu rien venir? Je vois comme une flamme qui éclaire l'avenir. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Oh, musa do meu far, oh, minha mais gentil, te deixo consternar no primeiro abril. Mas não se tão ingrato, não esquece quem te amou. Em tua densa mata se perdeu e se encontrou. A essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal.
Divergence FM, le 93.9. Nous sommes donc dans l'émission Vendredi Théâtre. C'est le retour de Vendredi Théâtre. Et vous l'aurez remarqué, maintenant, Vendredi Théâtre, c'est de 12h à 13h. Ça va être le rendez-vous hebdomadaire de 12h à 13h, tout le temps Vendredi Théâtre. Alors, ce qu'on vient d'entendre, donc, c'était Fado Tropical, une chanson de Chico Buarque et Georges Moustaki, interprétée par Maria Teresa. Alors, Christopher, tu connaissais, toi, la version de Chico Buarque et tu viens de découvrir celle de Maria Teresa.
Oui, c'est la première fois que j'entendais le texte en français. Et c'est une très belle adaptation de Maria Teresa avec cet accordéon.
On la retrouvera tout à l'heure, Maria Teresa. Nous parlons donc du festival d'Almada à Lisbonne, festival qui a eu lieu au mois de juillet, où nous avions notre envoyé spécial, le Tito Livio, qui assistait à presque tous les spectacles.
Déjà une petite correction, c'est pas Francis Weber, mais Jacques Weber,
bien sûr.
Évidemment. Puis une petite pensée pour Georges Moustaki qui nous a quittés et qui a fait ses paroles et qui était un grand ami de la langue portugaise, oui. Qui parlait remarquablement bien. Et
il a écrit ça en 1974, voilà. Puisqu'il avait été faire un voyage pour voir ce qui se passait beaucoup. Pendant la révolution des œillets.
Il nous manque vraiment beaucoup.
Alors, ce festival d'Almada.
Alors là, je passe à... Qu'est-ce qu'on peut appeler ça? Peut-être théâtre d'intervention, théâtre témoignage. Je vais commencer par une pièce que je n'ai pas aimée.
Allez, vas-y.
Et que, bon, alors les gens accueillent enthousiastes, mais bon, moi, pas moi. Ça s'appelait Héroïne et ça vient d'Irlande. Oui, ben, les acteurs, c'était très bien, la mise en scène, c'était pas mal. Mais moi déjà, ça commence. Il y a des choses. Moi, je veux bien qu'on vienne nous chercher, qu'on essaie de nous interpeller. Je vais parler après d'une pièce qui le réussit, elle, très très bien ça. Mais là, c'était. Ça commençait déjà par un ratage total. Il y a deux gamins qui couraient partout dans les trucs. Et puis, bon, ça, c'est bien de nous interpeller. Mais après, pour faire quoi, finalement, on a une espèce de préambule où le gamin nous dit. Un texte, on dirait le gamin qui fait sa petite récitation, mais qui a envie de faire pipi. Bon, bah, bref, passons. Il y a une chose. Bon, moi, je suis ethnologue de formation et l'immersion, je trouve ça très bien. Hein. Bon, les mecs, ils sont allés faire du travail là, dans un quartier déshérité où il y a plein de drogués, je ne sais pas. Et après, ils en ont fait une pièce, tout ça très bien. Ce ne sont pas les premiers, ce ne seront pas les derniers, j'espère. Mais alors, j'ai horreur, personnellement, et en plus de par ma formation, qu'on vienne après m'en faire une espèce de messe où on vient me dire la grande vérité, toi qui ne connais rien, n'est-ce pas, t'es un bourgeois, t'as jamais vu ça, et moi je vais te montrer, c'est comme ça, hein, la vraie vie des drogués, des bacs, quartier de l'Irlande, etc., parce qu'évidemment, ça n'existe pas chez nous. Et nous sommes des bourgeois, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais été dans un squat, bon, bref. Et donc, je n'ai pas aimé ça. Moi, ça me passe à côté. Moi,
tu rappelles comment ça s'appelait ?
Héroïne.
C'était une mise en scène Héroïne.
C'est une mise en scène de Grace Diaz. Mais qui n'a rien à voir avec le Portugal. J'ai même pas envie de m'attarder
voilà,
là-dessus.
Parlons de quelque chose que tu as davantage apprécié.
Non, mais c'est quand même important parce que après on va parler de choses plus intéressantes, c'est-à-dire que. Mais ça se fait à Montpellier, on va deviner de qui je parle. Le truc, j'ai vu et je vais vous raconter, genre messe. Bon, alors les Irlandais, entre les protestants qui les ont dominés et les cathos qui les absorbent, vont peut-être beaucoup à la messe, mais moi j'ai pas envie. Voilà, moi j'ai pas envie d'aller au théâtre pour aller à la messe et qu'on me prêche la bonne parole, ça m'intéresse pas. C'est voilà, j'aime bien qu'on me pose des questions, qu'on me fasse douter de moi-même et de ce que j'ai vu ou ce que je ne connais pas, mais pas qu'on me fasse la morale, ça m'intéresse pas. Après, on va traverser le Tage, hein, il y a deux choses qu'il faut faire dans la vie en matière de fleuve. De ville d'eau en Europe, c'est traverser le Grand Canal et traverser le Tage. Hein. À mon avis, c'est deux choses à ne pas rater. Donc là, on est sur un bateau et on va passer de l'autre côté à Almada.
Donc tu as traversé le Tage pour aller où ?
Voilà. Et là, on va chez les Français. Enfin, c'est les Français, chez les Maliens. La pièce s'appelle Le Papalagui. Et c'est alors c'est compliqué parce qu'il faut que je trouve parce que ce sont des gens que je connais absolument pas mais que on connaît certainement ici puisque ça a été présenté à Avignon l'année dernière Et je ne comprends vraiment pas pourquoi ça n'a pas été programmé à Montpellier. Alors là, ça, mes enfants, vous êtes passés à côté. Hein. Vous êtes vraiment passés à côté. Et en plus, ça a eu une très bonne presse. Voilà du théâtre intéressant, du théâtre qui nous renvoie plein la gueule, des choses et de façon amusante, de façon intéressante, qui nous fait réfléchir. Et ça, c'est donc une pièce. Alors, c'est compliqué parce que serait un monsieur allemand qui aurait colligé ses textes. Ça se passe dans les îles Samoa. Donc, alors, l'histoire, c'est plus intéressant.
Ça s'appelle comment déjà ? Ça s'appelle comment ?
Le Papalagi.
Ah.
Le Papalagi, c'est les Blancs, en fait.
D'accord.
Et c'est un chef des îles Samoa qui est venu en Europe et qui est allé et qui après va rentrer chez lui et qui va expliquer ce qu'il a vu. Hein. C'est comme les lettres persanes de Montesquieu. Hein. Donc il va dire. Alors ils sont comme ça, ils sont comme ça. Il nous parle de nous comme un ethnologue parle des Indiens. Et c'est à mourir de rire. C'est très très marrant. On voit plein de trucs. Ça, là, je suis vraiment acheteur. Hein. Moi, je serais allé voir trois fois. L'acteur est remarquable. Décidément, l'Afrique a beaucoup à nous apprendre. Même si j'ai parlé des îles Samoa, mais c'est fait par des Africains. Même si c'est une pièce, une production française. Après, j'aimerais bien parler de Pays Natal, qui nous vient de Toulon,
Pays
du
Natal.
Théâtre Liberté, et qui est une espèce de, comment pourrais-je dire, de travail. C'est à partir de texte d'un auteur grec contemporain. Je vais essayer de trouver son nom parce qu'évidemment je ne le connais pas. Je vais peut-être le trouver. Ben, écoutez, si je ne le trouve pas, c'est pas grave. Mais ce que je trouve intéressant à raconter. Plutôt, c'est, puisque je parle de choses que je ne connais pas, parlons d'un peu de ce que j'ai vu. C'est donc un travail sur la Grèce actuelle. C'est remarquablement mis en scène, remarquablement bien joué. Il y a un travail, puisqu'il y a des témoignages en vidéo qui apparaissent. Et là, pour une fois, ce n'est pas de la vidéo au décor, c'est de la vidéo qui participe au spectacle, qui apporte quelque chose, avec des gens qui parlent de ce que c'est que la Grèce et quel est leur rapport. Alors là, ça m'a énormément apporté. Quel est leur rapport à ce passé mythique de la Grèce, de la grande Grèce. Et on apprend des choses très intéressantes comme quoi l'ignorance qui ont les Grecs sur leur propre passé. Alors, il y a un peu ça. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le regard des Français qui vont en vacances, par exemple. Il y a un personnage de touriste. Qu'est-ce que c'est que d'aller en Grèce en tant que touriste et dire j'ai vu la Grèce, j'ai vu la crise en Grèce quand on n'est que touriste. Il y a énormément de réflexions. C'était très bienvenu puisqu'on vit la même situation au Portugal. On a aussi un rapport conflictuel et compliqué avec un passé glorieux. Et qui finalement, peut-être comme les Grecs aussi, on peut toujours en parler, mais qu'est-ce qu'on en sait de ce passé ? Et il y a un moment, un personnage, un témoignage qui dit j'étais en Allemagne et un jour on frappe à ma porte et il y a un monsieur allemand qui s'adresse à moi en grec ancien. Et moi je ne comprenais pas ce qu'il disait. Et il me dit mais vous êtes grec ? Et je me suis aperçu que ce monsieur connaissait lui, allemand, ma culture, et que moi, j'étais un ignorant, j'étais même pas capable de le comprendre quand il me parlait en grec ancien. Et il y a plein de choses comme ça, c'est de toute beauté, vraiment, c'est frais, c'est intéressant.
Tu nous rappelles comment ça s'appelle aussi. Tu nous rappelles comment ça s'appelle ?
Pays Natal. Voilà, aussi, ça a été aux Amandiers, aucune raison pour que ça ne vienne pas à Montpellier.
Ça donne envie.
Ça part à Lisbonne, à 1400 km d'ici, je ne viens pas à Montpellier. Alors que Toulon, bon, je sais bien que Toulon, quand on y va, on essaie de passer à côté. Hein. Mais bon, donc, il y a un endroit où s'arrêter, c'est le Théâtre Liberté. Et pour finir, alors là, c'est très, très rigolo. Ça nous vient de ce sont des gens qu'on a déjà vus souvent ici à Montpellier. Hein. C'est le théâtre de l'ECDN Dijon. Mmh. Et ça s'appelle tout simplement « Et si on s'y mettait tous ?» Alors, là aussi, une réflexion sur la crise, sur le moment actuel. Alors, c'est assumé que ce sont des gens de gauche, hein, ils ne le cachent pas. Ce sont des gens de gauche qui sont vraiment bercés par toute cette tradition des chansonniers français, anarcho-communistes, socialo, toute cette frange de la vie ouvrière et de la vie populaire française dans ce qu'elle a de meilleur et des luttes. Et donc, on chante avec eux. Là, du coup, on vient nous chercher et on y va avec joie. On participe avec joie. À la fin, on boit et on mange avec eux. C'est un peu, c'est génial. Parce que moi, du saucisson et du pinard, je suis toujours partant. Et c'est très, très, très bon. Très, très, très bien. C'est une création collective de François Chateau, Jean-Louis Ourdin, Christian Janin et Martine Chambachère. Voilà, et avec la complicité de Benoît Lambert. Ça nous vient du CDN de Dijon-Bourgogne. C'est absolument extraordinaire. C'est très, très bon. Je verrai ça très bien à Jean Villard ou au Domaine d'eau, puisque c'est en plein air. Il y a une espèce de combi Volkswagen qui arrive et qui s'ouvre, et après, c'est une espèce d'étal de boucher, comme dans les marchés en province, qui a ça klaxonne et tout, évidemment. Et après, mais ça part vraiment dans tous les sens, mais en sachant très bien où on va. Voilà, ça aussi, je trouve ça très très bon. On peut faire une pause musicale si tu veux, et après, j'aimerais bien parler des choses qu'il faut. Portugaise que je trouve qui serait intéressant et judicieux de faire venir ici.
Alors on va passer à un petit groupe portugais, capverdien, groupe de Batacoé de Cidade de Velha, et le morceau s'appelle CPLP. CPLP, ça veut dire quoi?
Communauté des pays de langue portugaise.
Voilà, et voilà. C'est du batuque.
CPLP tem futuro para nós tudo.
Eles aceitam
em 9 de julho. Passariano 96, que foi criado na Terra Lusa. Comunidade de todos os povos, é pai de língua portuguesa. CPLP tem futuro para nós tudo. Eles aceitam em 9 de julho. Passariano 96, que foi criado na Terra Lusa. Comunidade é pai de língua portuguesa. CPLP tem futuro para nós tudo. CPLP tem futuro para nós tudo.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9, et nous parlons du Portugal, de l'usophonie, puisque Tito a été au Festival d'Almada, le Festival de Théâtre d'Almada à Lisbonne, et il était notre envoyé spécial, et il nous fait un petit compte-rendu de ce qu'il a vu sur ce grand festival, ce grand et sympathique festival, qui fait un peu penser, d'après ce que j'ai compris, au Printemps des Comédiens.
Oui, il y a le même esprit, on est très bien accueillis, il y a plein de... Alors, à la portugaise, hein. C'est-à-dire, il y a de quoi bouffer, il y a à boire, voilà.
Au Printemps des Comédiens aussi, d'ailleurs.
Oui, voilà, exact. Et puis, il y a cet esprit comme ça. On aime bien, on sent que les gens sont contents de nous voir. Hein, les gens de l'organisation sont contents de nous voir venir, les gens. Voilà, même s'ils ne nous connaissent pas, ils sont contents de nous voir.
Alors, dans les spectacles que tu aimerais bien que faire venir, des spectacles, des productions portugaises que tu aimerais bien que, bah, qu'ils puissent venir à Montpellier.
Alors, moi, je vais commencer parce que, juste un petit préambule, le festival cette année a été pas mal financé par les Nordiques.
La Scandinavie, entre autres.
Par la Scandinavie, qui, visiblement, bon, un de ces quatre, ils vont devenir les sauveurs de la culture en Europe, parce que, déjà, on a reçu une délégation de Beira à Mozambique, ils avaient été financés par les Norvégiens, et là, ils ont pas mal financé le festival. Moyennant quoi, évidemment, on a parlé de Strindberg et d'autres.
Et d'Ibsen.
Et d'Ibsen, évidemment.
Bien sûr.
Mais c'est très bien. Bah, écoutez, hein, moi, je pense que si le Portugal avait de quoi financer, on parlerait davantage de nos auteurs et ça serait tant mieux. Et donc, on ne va pas se plaindre. Moi, je vais juste dire deux mots. J'avais pas pensé forcément en parler, mais j'ai vu deux choses qui m'ont intrigué parce que j'aime pas ne pas comprendre, mais j'admets quand je ne comprends pas, bah, tant pis. Donc, j'ai vu une performance d'une actrice qui nous lisait en intégrale, hein, qui nous disait en intégrale Mademoiselle Julie, ah, hein, oui, de Strindberg. Et moi, mais en même temps, alors je crois que c'était la langue et le surtitrage, et je perdais les choses. Et donc du coup, comme elle faisait tous les personnages, je suis complètement passé à côté. Mais alors, quel regret, parce que quelle actrice... J'ai trouvé la démarche très intéressante et j'ai beaucoup regretté. Si je pouvais aller le revoir, je serais allé le revoir.
Comment s'appelle l'actrice?
Alors, je vais te trouver ça. Anna Peterson, qui est visiblement quelqu'un de très connu. Eh bien, je comprends, parce que la dame... On sait que dans ces pays-là, il y a une très bonne école de théâtre, on le sait, mais chapeau. Après, quelque chose, là, j'ai pas aimé du tout, c'est le sourire éternel. Alors, c'est d'après...
Va rapidement sur ce que tu n'as pas aimé.
Un prix Nobel de 1951, un type qui s'appelle Per Fabien Lagerkvist.
Lagerkvist, oui.
Voilà. Je ne connaissais pas du tout. Et ça fait penser à la mastication des morts qu'on a vu ici déjà deux ou trois fois. Ben, ce n'est pas ça, mais c'est des morts qui parlent. Alors, ça commence très bien. Esthétiquement, rien à dire. Pertinent, c'est intéressant, c'est marrant. Les gars, toujours, bon, alors, ils savent faire. Hein, donc c'est très bien, mais au bout d'un moment, parce qu'ils disent que c'est un collectif et qu'ils travaillent de façon collective et non coordonnée, et ben, ça se sent, et au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils commencent à mettre des idées dans une boîte, qu'ils secouent tout ça et qu'ils nous balancent comme des dés, et ça roule dans tous les sens et ça finit dans un capharnaüm. Alors moi, je veux bien que ça se finisse dans un capharnaüm, mais il faut qu'on comprenne pourquoi et qu'il y ait un sens à ça, et là, il n'y en a pas. Voilà.
Voilà. Donc, on t'a pas aimé, on va passer à autre chose.
Alors,
rapidement.
Toujours dans Strindberg, Le Pélican.
Ah oui, une pièce.
Là, c'est mise en scène par Roger Carvalho, qui est un ami de quelqu'un qu'on connaît bien ici, qui est Suzanne de Morlon.
Hein, ah oui, oui, bien voilà. Sûr.
Et
L'écharpe blanche.
Voilà, et qui nous a fait quelque chose de merveilleux. Alors. Comment est-ce que je peux vous dire ?
Donc ça s'appelle Le Pélican, c'est de Strindberg.
Il y a Teresa Gaffera qui est une immense dame de théâtre. Et c'est une pièce presque d'appartement. Donc ils nous font ça vraiment dans... Et puis il y a une sensation de confinement qui est très très bien amenée. c'est simple, c'est sobre, avec des gens épatants. C'est très classique comme mise en scène. Il y a pas d'esbrouffe, mais
c'est tout, en traduction portugaise.
C'est en traduction portugaise, c'est parfait. Moi, j'aimerais beaucoup voir ça ici parce que ça fait du bien de voir une pièce classique, bien montée. Montée classique, mais qui fonctionne avec des acteurs qui peuvent donner beaucoup de leçons à pas mal de gens.
Ben on en parlera à Jean Varela, puisque Jean Varela sera notre invité dans 2 semaines.
Voilà. Après, tout autre chose, mais toujours dans le nordique. Alors, il y a... Je suis désolé, mais je suis toujours... c'est Miguel Castro Caldas qui m'excuse, j'ai une absence, et qui a pris plusieurs pièces d'Ibsen.
Et alors, Ibsen qui est décidément à la mode, revient à la mode, alors, puisqu'on a eu 2 Ibsen cette saison, et puis il est un petit peu joué partout ces temps-ci.
Il y a plusieurs choses qui m'ont plu. Il y a une première chose, c'est que ce n'est pas un collage de texte, c'est une traversée de texte. On traverse les différentes pièces avec beaucoup de cohérence, avec un discours très, 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 très maîtrisé. Là aussi, il y a de très bons acteurs. Je vous jure, moi, comme je ne connais pas forcément tout le monde qui est sur scène et qui est professionnel, j'étais bluffé par les amateurs, parce qu'il y a des gens des ateliers de théâtre de l'INATEL, qui est un peu la maison des syndicats, si vous voulez, quelque part, pour faire court. Et tout ça fonctionne extraordinaire. Il dit que Ibsen, la langue d'Ibsen n'existe plus, puisqu'en 1905, il y a eu une réforme de la langue norvégienne. Et donc, quelque part, on est toujours en traduction. Et donc, il y a une traduction de la traduction. Il y a un travail là-dessus. Je ne sais pas comment expliquer. Il faut voir ça. Il faut voir ça. C'est une leçon de théâtre. C'est une leçon d'adaptation. C'est une leçon de lecture. Dans un pays comme la France, on ne sait plus lire, puisque je sais de quoi je parle. Les gens arrivent en fac et on leur met un texte entre les mains. Ils ne sont pas capables de nous dire ce qu'il y a dedans. Réapprenons à travailler sur des textes. Bravo, bravo, bravo. Juste un petit reproche, et j'ai assisté au débat après. Je trouve que ça ne fonctionne pas, la chute finale. Voilà, mais à mon avis, ils ont dû travailler là-dessus. Donc, très très bien, ça aussi, il faut que ça vienne.
Est-ce que tu as d'autres spectacles?
Alors, dernier, c'est ça la VIP. Tout honneur. En plus, il a travaillé dans sa jeunesse pour lui. Donc, on finit par Georges Sylvain Mel. Hein?
Ah oui.
Georges Sylvain Mel, avec une pièce. C'est pas lui qui la met en scène, mais c'est une pièce qu'il a écrite qui s'appelle Ça la VIP. Alors, que je vous dise le nom de metteur en scène. Pardon, s'il y a des Portugais qui nous écoutent, parce que moi, vous savez, je ne connais pas forcément les personnes comme ça. Je vous le dirai. tant pis, hein. M'excusons. Salavip, alors, pour résumer la pièce, ça commence par un jeu de massacre. On rigole, et puis ça glisse petit à petit vers la tragédie. À la fin, ça se termine en tragédie. Alors, j'ai eu la sensation d'être chez Pinter, avec des louffés comme ça, tout d'un coup, il y a du Brecht qui passe, les gens se mettent à chanter, il y a tout d'un coup un regard public comme ça. Et puis après, non, on est à nouveau dans l'intimiste, et il y a, alors là, mes enfants... Il faut, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont passés les répétitions, parce qu'avec des pointures comme ça et avec des caractères comme ça sur scène, le metteur en scène a du mérite. Parce que ce sont tous des gens extraordinaires, avec des caractères extrêmement forts, avec une présence sur scène chacun. Des fois, on en va au théâtre et il y en a 2 ou 3 qui nous accrochent. Là, c'est impossible. Tout le monde a une présence très forte sur scène. Moi, je détacherais, mais c'est des C'est des affinités électives. C'est Elman Sunch qui a travaillé avec Jacques Allaire, qu'on connaît bien ici, et avec Marcy Mota à Paris. Et
Jacques
qui
Allaire
est un garçon qui est un bourreau de travail, et ça se sent quand on l'entend. Et on sent que ça vient et que c'est tac, c'est comme ça, et ça ne pouvait pas être autrement. Et André Abiento, que je trouve. Mon Dieu, cette dame.
Bon, on va conclure là-dessus, Tito. Donc, voilà. Festival d'Almada, si vous avez l'occasion d'aller. Si vous avez l'occasion d'aller au Portugal, c'est au mois de juillet, c'est tous les ans. Tu as vu combien de pièces, toi, à peu près
Une vingtaine.
Une vingtaine, il doit y avoir 30 ou 40 pièces au programme, sur l'intégrale. Donc c'est un petit peu le printemps des comédiens de Lisbonne, donc allez-y l'année prochaine, voilà. Donc Vendredi Théâtre, c'était le retour de Vendredi Théâtre, la première édition de cette quatrième saison. On se retrouve la semaine prochaine, je n'ai pas encore le programme de la semaine prochaine. On va sans doute parler donc de cette exposition sur les costumes de scène, et puis après on verra, voilà. Vendredi Théâtre, c'est terminé pour aujourd'hui. Je tiens à remercier Étienne qui était aux manettes, et puis on se retrouve à la semaine prochaine. Au revoir.
Mesmo se diferem as origens, só uma expressão vem nos unir. Tá marcada em cada um de nós a mesma emoção, a mesma voz. Sensibilidade à flor da pele, no arco-íris, cores da esperança. Corações no tempo, pulsação, como sendo única nação. Timocoa, Madeira, Açores, Moçambique, Angola, Macau, Cabo Verde, Brasil, Portugal. Língua mãe, lusofonia. Língua mãe, lusofonia. Horizonte, um novo pensar. Toda estrela no céu, seu lugar. Vida, história, luta, tradição. No destino de cada nação. Clareando a nova manhã. Desponta a alegria. Irmã, as cores em harmonia, na correnteza da lusofonia. Timocoa, Madeira, Açores, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil.